Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Comment prévenir les effets du changement climatique sur les cultures? Les effets dus au changement climatique se font sentir sur la production de plusieurs paysans. D'après les agronomes, les fortes chaleurs enregistrées ces derniers temps et des précipitations abondantes affectent les champs. Comment prévenir les effets du changement climatique? Donc, sur ces cultures, nous en parlons avec Jean de Dieu Minengou, qui est expert en environnement. Bonjour Jean de Dieu.
Bonjour Marcel.
Nous savons que les changements climatiques, c'est un phénomène naturel. Est-ce que les agriculteurs peuvent prévenir les effets néfastes sur les cultures?
Oui, merci Marcel. Je crois que la question est tellement importante parce que le changement climatique fait partie aujourd'hui des préoccupations de beaucoup de sociétés à travers le monde. C'est pourquoi vous avez vu pendant la conférence de Copenhague, on a dénombré autour des 130 chefs d'État et de gouvernement présents à cette conférence, ce qui démontre clairement que la question du changement climatique, c'est parmi les questions prioritaires et qui touchent beaucoup de sociétés à travers le monde. Et pour être beaucoup plus clair par rapport à votre question, je crois que les agriculteurs, au stade actuel, ne peuvent pas dire au vrai sens prévenir, mais comment les agriculteurs, surtout congolais, peuvent s'adapter aux impacts du changement climatique.
Il y a un problème d'adaptation.
C'est une question d'adaptation, parce que le changement climatique est là, nous ne pouvons plus l'arrêter. Le phénomène, comme vous l'avez dit, il est là, mais il nous appartient, nous, aujourd'hui, à développer des méthodes, à développer des stratégies pour permettre aux agriculteurs congolais, pour permettre aux exploitants agricoles de pouvoir s'adapter au changement climatique.
Et quelles sont ces stratégies alors? Et
je crois que le problème est tellement complexe, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre soit de façon isolée ou par un État, mais c'est pourquoi aujourd'hui c'est un problème qui préoccupe la communauté internationale. Donc tous les États à travers le monde doivent fournir les efforts pour pouvoir pas limiter les changements climatiques, mais réduire tant soit peu les impacts sur l'agriculture, sur la biodiversité, sur toutes les activités économiques que nous avions. Alors, comment les agriculteurs peuvent s'adapter à la question du changement climatique? Je crois que la question est tellement importante. Et pour répondre d'abord à cette question, Marcel, vous pouvez me permettre de dire que les changements climatiques, en principe, pour la République démocratique du Congo, présente des opportunités et également des menaces pour notre pays, parce que avec tout ce qu'il y a, comme vous l'avez déjà dit, les problèmes de précipitations, les problèmes de forte chaleur, la République démocratique du Congo sera, selon les études qui sont en train d'être faites, sera d'ici 2080 le pays qui aura un grand potentiel dans le domaine de la production agricole. Donc, une bonne partie de la production alimentaire pour les populations qui sont au nord de la République démocratique, donc dans la partie nord de l'Afrique, mais également au niveau de l'Asie, pouvait provenir de la République démocratique du Congo. Donc, il serait beaucoup plus important à ces pays, au pouvoir public, avec les autres acteurs de la société civile, de mettre sur pied des stratégies, parce que 2080, c'est pas très loin.
Voilà, c'est justement cela qu'il est la première stratégie, par exemple.
Oui, et la première stratégie, Marcel, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme dérèglement du climat, je crois que les calendriers agricoles chez les agriculteurs se trouvent maintenant modifiés. Et surtout, quand vous prenez la partie de la province du Bandundu, vous avez le Kwango et vous avez une bonne partie du Kwilu où vraiment le calendrier est complètement bouleversé. Quand vous êtes ici également à Kinshasa, vous voyez vous-même que les pluies rentrent justement vers le mois d'octobre et puis les pluies s'arrêtent très, très vite vers décembre. Donc ça complique un peu les travaux agricoles, surtout auprès des agriculteurs. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, mais moi je crois que le problème maintenant, c'est de trouver quelles sont les variétés agricoles, ce que nous pouvons appeler les variétés résilientes qui peuvent s'adapter au changement climatique. Et je l'ai dit pendant la conférence qu'on avait à Kikwit, il y avait la foire agricole, je suis même, vous l'avez dit ça ici, dans l'une de vos émissions ici. Donc, il faut aller vers des variétés résilientes. Et ces variétés, je suis convaincu que ces variétés ne doivent pas provenir d'un grand laboratoire. Ces variétés ne vont pas provenir des grands centres de recherche.
Quand vous dites des variétés résilientes, c'est-à-dire des variétés qui peuvent résister à tous ces changements?
Bien sûr, Marcel, oui. Ce sont des variétés qui peuvent résister, qui peuvent s'adapter aux impacts du changement climatique, oui. À tous ces dérèglements du climat, les problèmes de précipitation, les problèmes de forte chaleur. Donc il faut arriver à sélectionner ces genres de variétés.
Et comment y arriver?
Et pour y arriver, Marcel, moi je crois qu'il faut passer par ce qu'on appelle aujourd'hui la sélection participative. Donc, je ne crois pas qu'un centre de recherche, je ne crois pas qu'un grand laboratoire, je ne crois pas qu'une grande firme qui produit des semences soit capable de produire. Donc, il faut un travail maintenant de qualité. Il faut réorienter notre manière de faire. Il faut réorganiser notre façon d'encadrer les agriculteurs, c'est-à-dire identifier avec les agriculteurs, en fonction de chaque raison écologique, les variétés qui peuvent s'adapter dans leurs conditions. Donc, croire que faire quelques manipulations au laboratoire et dans un centre qu'on peut arriver à produire des variétés qui vont s'adapter ou qui vont présenter, qui vont donner une bonne production dans différentes zones écologiques, je crois qu'à mon avis, on serait peut-être en dehors de la plaque. Donc, il faut aller vers la sélection de ces variétés. Il n'y a pas que des variétés, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire maintenant. Il faut maintenant aller vers une production agricole qui soit beaucoup plus viable.
Il faudra déjà se mettre au travail dès maintenant.
Oui, Marcel, comme vous l'avez dit, il ne faut pas qu'on soit chaque fois surpris par les événements. Nous n'avions jamais eu le temps d'anticiper les choses. C'est la nature qui nous guide et nous, on n'a rien à dire. On est là et le lendemain, on commence à pleurer de gauche à droite. Le visage que représente un millier de vies, Marcel, comme vous venez de le dire, c'est le résultat d'un long processus de transformation dans la longue durée historique. Ce que nous serons demain, c'est le fruit du travail que nous sommes en train de faire. J'ai discuté même avec un ami, j'ai dit, l'avenir se prépare aujourd'hui. Il me dit, non, l'avenir se prépare hier. Il me dit, même c'est avant-hier même que l'avenir se prépare. Donc, ce que nous serons demain dans le domaine de l'agriculture par rapport aux enjeux du changement climatique, c'est le travail, comme vous venez de dire. Donc, il faut qu'on travaille maintenant.
Comment prévenir les effets du changement climatique sur les cultures? Nous en parlons avec Jean de Dieu Minengou, expert en environnement. Nous avons déjà un auditeur en ligne, c'est Olivier depuis Kananga, dans la province du Kassai-Occidental. Vous voulez également intervenir, vous pouvez nous appeler au 081 890 63 94 ou également nous faire parvenir un SMS au 081 711 50 01. Olivier, bonjour. On vous écoute Olivier, c'est quoi votre question?
À partir du Canada, je vais demander à l'invité, qu'est-ce qui est lié au changement climatique?
Qu'est-ce qui est lié au changement climatique?
Ouais, ouais.
D'accord, Jean de Dieu va vous répondre tout à l'heure, Jean de Dieu.
Oui, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut, je ne comprends pas.
Probablement, je voudrais savoir qu'est-ce qui explique à la base.
En fait, mon ami Olivier, ce qui est à la base du changement climatique, c'est que le changement, en fait, l'effet de serre en lui-même, c'est un phénomène d'abord naturel. Donc c'est grâce à l'effet de serre que la vie est possible sur la surface de la Terre. Donc, mais ce qui est un peu alarmant aujourd'hui, c'est que la quantité de ce que nous appelons les gaz à effet de serre ont augmenté au niveau de l'atmosphère. Donc, ça fait que la température au niveau de la surface terrestre a augmenté et ça a des répercussions sur l'ensemble des écosystèmes, sur l'ensemble des océans. Et tout ça, c'est ça le problème. Donc, c'est surtout, on dit que c'est l'activité anthropique, l'utilisation des énergies fossiles, l'agriculture surbrûlée, la mauvaise gestion des déchets comme nous sommes en train de faire dans la ville de Kinshasa. Ce sont ce genre de pratiques qui ont contribué à augmenter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et nous avons des conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Voilà de façon brève ce que je peux dire à notre ami Olivier par rapport à sa question.
Willy nous appelle de Lubumbashi dans la province du Katanga. Willy, bonjour. Willy, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, Willy.
Oui, j'aimerais poser la question à l'invité par rapport à ce réchauffement climatique de la vie des agriculteurs. Est-ce que ici au Congo, pour le moment, y a-t-il le laboratoire qui traite les produits que les agriculteurs utilisent pour éviter ce réchauffement climatique vis-à-vis de ces produits qu'ils utilisent? Ou soit, y a-t-il des mécanismes qu'ils ont pour le moment qui peuvent soit permettre les agriculteurs à s'éloigner des risques qui peuvent soit survenir vis-à-vis de ce réchauffement climatique?
Merci Willy. Jean de Dieu.
Oui, merci beaucoup Willy pour votre question. Je crois que c'est ça qu'on était en train de discuter exactement avec Marcel ici. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est un travail qui doit être très bien programmé. C'est un travail qui doit être le fruit d'une politique au niveau national, au niveau provincial. Et je ne crois pas que ce soit des choses de façon disparate avec les ONG, avec les autres membres de la société civile. Et ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est que Nous avions déjà parlé de la sélection participative avec l'ensemble des communautés pour identifier des variétés qui peuvent s'adapter au changement climatique, mais il faut également mettre également une politique pour encourager ce que nous appelons l'agroforesterie, les reboisements communautaires, mais il faut également aussi faire ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Ça, c'est extrêmement important si nous voulons que les agriculteurs s'adaptent par rapport aux impacts du changement climatique. Et ça, c'est très important. L'agriculture familiale, l'agriculture qui est destinée à produire des biens marchands et non marchands qui se réalisent au niveau local. C'est cette forme d'agriculture que l'État congolais, que les pouvoirs publics de la République démocratique du Congo devraient encourager pour permettre aux agriculteurs de pouvoir s'adapter au changement climatique. Parce que cette agriculture, c'est une agriculture qui est beaucoup plus durable. C'est cette agriculture qui réduit même les impacts par rapport au changement climatique. Mais l'agriculture industrielle, l'agriculture intensive, cette agriculture n'est plus aujourd'hui capable de pouvoir s'adapter par rapport à tout ce qu'il y a comme changement sur les climats. Donc je crois que tout ce que nous avions dit, variété résiliente, favoriser l'agroforesterie au niveau local, les reboisements communautaires, bien sûr l'agriculture de conservation, ce sont des pratiques que l'État, le pouvoir public, avec les associations, peut pouvoir travailler pour que les choses aillent de l'avant.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Comment prévenir les effets du changement climatique sur les cultures? Nous avons un auditeur en ligne, c'est Josué depuis Kinshasa, dans la vie province de Kinshasa. Josué, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur l'auditeur.
Le journaliste, je vous écoute, Josué.
Oui, j'ai des préoccupations à poser à monsieur l'auditeur. La première question est de savoir, oui, quelles sont les variétés qui peuvent adapter au changement climatique sans pourtant modifier nos systèmes environnementaux?
Et la deuxième?
La deuxième, à travers ces variétés que le monsieur vient qui va adopter dans notre pays, est-ce que ces variétés nous apporteront des problèmes?
Merci Josué, Jean de Dieu.
Ah, merci beaucoup José pour tes préoccupations. Je crois que nous l'avions déjà dit, à ce qui concerne les variétés, il faut faire ce qu'on appelle la sélection participative. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en République démocratique du Congo est beaucoup la manière dont on forme les ingénieurs, la manière dont on forme les techniciens qui sont chargés d'accompagner les agriculteurs, c'est-à-dire ces gens-là amènent et même les variétés. Voilà, nous avons une variété de manioc, voilà, il faut utiliser ça, voilà les rendements. Mais aujourd'hui, par rapport aux enjeux du changement climatique, ça montre clairement que ce ne sont pas des variétés qui sont fabriquées au laboratoire, ce ne sont pas des variétés, ce qu'on appelle les variétés améliorées, ce ne sont pas des variétés stabilisées qui peuvent s'adapter aux impacts du changement climatique. Il faut un travail d'intelligence, il faut un travail d'ingéniosité pour que ensemble avec les populations locales, ensemble avec les agriculteurs, nous arrivions à identifier un certain nombre de variétés, d'espèces végétales qui s'adaptent au changement. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. C'est pas un travail d'un jour. Le problème, c'est qu'au Congo, quand les gens commencent quelque chose, ils veulent avoir les résultats demain pour montrer aux gens qu'il a travaillé. Non, c'est un processus qu'il faut prendre beaucoup de temps et avec beaucoup de maîtrise et arriver à des bons résultats. Le problème, c'est ça le problème. C'est qu'il faut éviter, c'est l'utilisation anarchique par exemple des OGM. C'est l'utilisation anarchique des variétés que les gens semblent dire non, ce sont des variétés améliorées qui en réalité n'apportent aucune solution au problème de l'agriculture. Au contraire, aggravent des problèmes. Parce que quand vous utilisez les variétés améliorées, ce sont des variétés qui demandent l'utilisation des engrais. Et on sait bien que lorsqu'on utilise les engrais chimiques dans la production agricole, ces engrais renvoient dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Lorsque vous utilisez les pesticides, mais pas seulement que ça renvoie dans la production des gaz à effet de l'atmosphère, mais ça crée des problèmes dans la santé publique. Donc, nous devons nous diriger vers tout cela. Mais c'est très difficile parce que nous avions tellement été habitués avec des choses qui sont fabriquées dans des îles et qu'on ne fait pas confiance à ce que nous sommes en train de faire. Il y a ce qu'on appelle, moi j'ai dit ça pendant la foire d'agriculture, nous avons un savoir très important qu'on appelle les savoirs locaux. Des intelligences que les gens, les agriculteurs développent à travers leurs activités. C'est ces savoirs qu'il faut valoriser. Vous avez des innovations qui sont vraiment très pertinentes, développées par les agriculteurs. Mais dans ces pays, c'est des choses, les gens minimisent ça. Même dans les domaines médicaux, vous allez voir Marcel, quelqu'un qui sait apporter des problèmes et des solutions aux problèmes de la santé, mais celui qui fait la médecine, par exemple, il dit non, c'est un charlatan. Mais il oublie que c'est un savoir qui a réglé des problèmes pendant des années dans la société, qu'on peut valoriser ça pour pouvoir faire avancer la société.
Alors, Jean de Dieu, il y a un problème très important. Vous avez parlé de variété résiliente, ça c'est dans la projection. Mais maintenant, sur le terrain, il y a cette réalité. Hein. Donc, il y a les agriculteurs qui font face à des problèmes par rapport à leur culture. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes actuellement que le paysan, les agriculteurs peuvent utiliser face à de fortes inondations ou bien de fortes chaleurs? Il y a des méthodes préventives.
Oui, merci Marcel. Je crois que ce que les agriculteurs peuvent faire, parce qu'ils le font déjà, ce qui posera peut-être un peu de temps, c'est l'accompagnement. Je crois que les agriculteurs se font, ils savent même sélectionner les variétés qui s'adaptent par rapport au changement climatique. Mais par rapport au calendrier agricole qui est complètement bouleversé pratiquement dans beaucoup de régions, je crois que les conseils qu'on peut donner à ceux qui font l'agriculture, c'est qu'ils n'essaieraient pas trop tôt de pouvoir planter avant que la première pluie n'arrive. Il faut attendre que la première pluie arrive, mais il ne faut pas aussi aller planter trop tard, parce que les expériences...
Là, il faut bien expliquer, c'est important. Il faut attendre que la première pluie arrive, il ne faut pas aller également planter trop tard. Et c'est un peu de bien expliquer, c'est important.
Ça veut dire quoi, Marcel? C'est-à-dire, vous voulez planter, généralement ici, la grande saison, c'est en septembre, octobre. Donc, vous avez préparé votre terrain, il est beaucoup plus important de ne pas s'engager déjà dans les semis avant que la pluie n'arrive. Donc, il faut semer lorsqu'il y a la première pluie. Mais il ne faut pas attendre aussi trop tard. Lorsque vous attendez trop tard, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les pluies vont partir, vous risquez d'avoir des difficultés. Vous avez des plantes, par exemple, si c'est les maïs qui ont par exemple 10-20 cm, et puis finalement il n'y a plus de pluie, ça commence à jaunir. Donc, il faut semer très tôt pour permettre à ce que votre culture puisse bénéficier le maximum de pluie. Mais il ne faut pas abandonner les agriculteurs, parce que dans ces pays, on croit que la nature, nous, on ne fait rien, on attend que la nature puisse agir, mais il faut un travail d'accompagnement. Il faut que les pouvoirs publics s'y mettent. C'est pas avec des discours qu'on peut reconstruire le pays, mais c'est avec de l'intelligence, avec des stratégies. Les discours, on en a déjà entendu plusieurs fois, ça n'a réglé aucun problème, mais il faut le travail, un travail responsable, un travail réfléchi, pas des choses où on ramasse de gauche à droite, et puis finalement sur le terrain. Marcel, je voudrais aborder. Dans le contexte actuel du changement climatique, vous avez une partie de la province du Bandundu, quand vous êtes sur le Kwango, le plateau du Kwango là. Mais c'est une région extrêmement fragile. Donc dans cette région, la responsabilité, l'intelligence ne peut pas vous autoriser dans cette région d'aller vers la mécanisation tout à fait intensive de l'agriculture. Ça, je l'ai dit à la foire d'agriculture, les gens étaient très fâchés contre moi, mais ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de dire la vérité.
Voilà, on va accueillir Dr Richard qui nous appelle de Kinshasa. Dr Richard, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour notre invité Monsieur Meningo.
Bonjour Richard.
On vous écoute Docteur Richard.
Oui, j'ai beaucoup aimé le discours de notre invité. Je voudrais apporter la touche médicale à son discours. Lorsque la production agricole pose problème, il y a des répercussions au niveau de la santé. Dans le sens de la carence, parce que les gens ne vont pas s'alimenter de façon correcte. Alors, moi, je propose ceci. Parce qu'il a parlé du pouvoir public, des associations qui doivent s'organiser. Mais je crois que c'est lui qui est expert, qui peut donner le ton par des conférences à approche intégrative. C'est-à-dire, il peut être entouré de médecins, il peut être entouré d'agronomes, etc. pour expliquer le danger futur par rapport au changement climatique. Voilà. Je félicite votre émission, je le félicite aussi.
Merci, docteur Richard. Vous allez répondre tout à l'heure, Jean de Dieu, le temps pour nous d'accorder la parole à Arnold, qui nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Arnold, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité de l'émission de ce jour.
Bonjour, Arnold.
On vous écoute. Ma préoccupation est la suivante. J'aimerais que notre invité puisse nous donner quand même des mécanismes à prendre afin d'éviter le réchauffement climatique. Parce que nous voyons que tous les arbres qui sont été plantés par les Belges à l'époque sont coupés par le gouvernement provincial. Est-ce que ça peut changer le climat dans notre province?
Merci Arnaud. Jean de Dieu, nous commençons par le docteur Richard qui a parlé de ce lien important qu'il y a entre le problème climatique et la sécurité alimentaire.
Ah, merci beaucoup. Je crois que le docteur Richard a bien circonscrit sa préoccupation ou son intervention. C'est extrêmement important. Je crois que l'idée, elle est là. On organise déjà des conférences par rapport à tout ça. Mais déjà, je dois dire à docteur Richard qu'on avait prévu, il y a de cela, je crois, 2 ans depuis 2010, où on devrait réfléchir avec le ministère, l'université de Kinshasa, on devrait réfléchir avec le ministère de l'Environnement sur la politique réelle par rapport aux enjeux du changement climatique dans les domaine de l'agriculture, dans les domaines du reboisement de la foresterie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jusque-là, ils n'ont jamais répondu à cette préoccupation. Ils ont, mais ce n'est pas pour nous l'occasion de croiser les bras. Il faut toujours continuer à travailler, peut-être avec l'ensemble des acteurs de la société civile, pour faire avancer les choses. Les idées existent. On aura certainement besoin de vous. Il faut qu'on se voie et on va se parler pour qu'on définisse ensemble ce qu'il faut faire. Parce que comme vous venez de dire, Marcel, si on ne fait rien, il n'y aura rien. Nous avions toujours l'habitude de croire que Dieu va faire quelque chose pour nous. Non, Dieu, il a beaucoup de gens derrière lui qui le suivent. Il n'y a pas que nous qui ont des problèmes. Donc, il nous a tout donné. Il nous appartient maintenant de pouvoir travailler, de pouvoir réfléchir pour apporter des solutions. Les conférences sont importantes. Les séminaires, il faut les organiser. Je crois qu'on est en train de travailler avec l'ambassade de la Grande-Bretagne. Je ne sais pas si ça va aller, mais on a proposé qu'on travaille par rapport à cette question. Et puis, la sensibilisation est très importante. Quand aujourd'hui, on parle des changements climatiques. Marcel, c'est l'affaire qui concerne quelques gens du ministère et quelques élites qui se trouvent à l'université, je ne sais pas, dans les ONG. Mais la population, est-ce qu'elle connaît quelque chose sur les changements climatiques? Pas du tout. Mais alors, on fait ça pour qui? On ne va pas faire des choses parce qu'il y a quelques élites qui doivent se trouver un peu déperdues dans une... Non, mais il faut que la population en elle-même soit sensibilisée sur les enjeux des changements climatiques. Et ça, ce n'est pas encore fait en République démocratique. Je crois qu'il faut absolument le faire. Comme venait de dire le docteur Richard, il nous appartient, nous, on ne va pas à chaque fois se plaindre et critiquer, mais il faut, on a des propositions, on a des choses, il faut commencer à faire des choses pour faire avancer les choses. Notre ami Arnold parle sur le réchauffement climatique.
Les mécanismes pour éviter.
Oui, les mécanismes, il a lui-même dit un mécanisme qui est complètement dévastateur pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir couper tous les arbres et finalement vous n'êtes pas capable de remplacer un seul arbre, et ça pose problème. Je crois qu'il appartient à l'autorité provinciale de pouvoir rectifier sa manière de faire. Parce que lorsqu'on coupe un arbre, il faut le remplacer par un autre. Il ne faut pas seulement couper pour donner l'impression qu'on a coupé pour donner... La vie, ce n'est pas seulement les quelques bétons qu'on est en train de jeter de gauche à droite. Non, les arbres sont importants pour la vie des gens, pour l'avenir de l'humanité. Voilà ce que je pouvais dire, Marcel.
Comment réagir, comment prévenir, j'allais dire, les effets du changement climatique sur les cultures? Nous en parlons avec Jean de Dieu Minengou. Nous avons de réactions qui nous parviennent par SMS. Il y a Hervé Michiala, qui est ingénieur en système d'information depuis Lubumbashi. Il dit ceci: je pense qu'il serait important de regrouper les agriculteurs au sein de coopératives qui servira d'appui dans la bonne gouvernance de ressources agricoles. Il y a également Papy Poiti depuis Kikwit, et lui dit pour éviter ces réchauffements, il faut lutter contre la spoliation des espaces verts. Et Moïse Mutuala Kolouizi dit: mes expériences en tant que scientifique et agriculteur montrent qu'en utilisant les engrais naturels, les résultats sont de plus en plus satisfaisants. Comment vous réagissez face à...
Merci beaucoup, Marcel. Je crois qu'ils ont dit des choses extrêmement importantes, parce que lorsque les agriculteurs ne sont pas en coopérative, ils ne sont pas en association, et c'est difficile de pouvoir les suivre, c'est difficile que les agriculteurs puissent défendre leurs intérêts. Et aujourd'hui, on parle du code agricole. Quelle a été la participation des agriculteurs dans l'élaboration de ça? Non, c'est des trucs que quelques élites à Kinshasa se retrouvent pour des raisons peut-être matérielles, et puis ils élaborent des trucs finalement qui n'ont rien à voir avec la population. Donc il faut que les agriculteurs se retrouvent à travers les coopératives, comme ils le disent, à travers les associations, pour qu'ils défendent leurs intérêts et aussi pour se partager leur expérience par rapport à
la spoliation des espaces verts.
Là, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, les accaparements des terres posent problème, parce que lorsque les gens qui ont suffisamment d'argent s'accaparent des terres, c'est pour la production agricole. Ils n'ont aucune vision, parce que l'environnement, il n'y a pas d'argent. Quand vous faites le déboisement, c'est finalement une forêt qui reste quelques... C'est des effets pas trop économiquement rentables. Donc, quelqu'un ne peut pas s'acheter des terres pour faire ça. Donc, il faut mettre fin. Les engrais verts, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous avons parlé de l'agroforesterie. Nous avons parlé également de l'agriculture de conservation, et nous allons parler du reboisement communautaire. Et Marcel, pour revenir par rapport à l'agroforesterie, parce qu'aujourd'hui, la difficulté dans ces pays, c'est quoi? Lorsqu'on parle du reboisement, vous allez voir nos amis qui sont au ministère de l'Environnement, vous allez voir les gens qui sont au niveau du programme RED, il y a un projet qui se réalise au niveau du Congo, mais c'est avec l'acacia. Donc, on immobilise des hectares de terres, des communautés, pour planter des acacias. Mais quel est l'intérêt réel de cette forêt pour les communautés? Il faut aller vers d'autres pratiques. On a proposé énormément de choses. Il y a des espèces végétales qui sont dans notre région, qui ont une croissance beaucoup plus importante que l'acacia et qui présentent d'autres utilités qu'on peut intégrer dans l'agroforesterie. Et ça, c'est extrêmement important. Et je vous dis, Marcel, pour terminer, parce que je vois que...
On continue là.
Je crois qu'il y a, il y a un travail qui est en train de se faire à l'université de Kikwit, à la faculté d'agronomie, où on est en train de faire la domestication des espèces végétales, mais bien sûr des essences forestières, en vue de leur intégration dans l'agroforesterie. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand nous avions parlé, vous aviez parlé ici de variétés résilientes, je connais un travail de fond par rapport à la poule locale et à la poule finalement améliorée, qui est l'ingénieur Blaise Mpumpa, qui a fini en agronomie, mais qui travaille également, qui est journaliste également à la radio Tomisa. C'est un travail très performant où on a compris que la poule locale présentait beaucoup de capacités à s'adapter par rapport à tout ce qu'il y a comme changement climatique, par rapport à la poule améliorée.
Il y a déjà des solutions en vue.
Il y a des solutions, mais il faut les appliquer. Et puis Marcel, il n'appartient pas à un médecin de commencer à chanter sur la rue pour chercher les malades. Il appartient aux malades d'aller à l'hôpital.
Jean de Dieu, on revient à vous tout à l'heure. D'accorder la parole à Chibango qui nous appelle de Kananga dans la province du Kassai occidental. Chibango, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, monsieur l'invité.
Bonjour, mon frère Chibango.
On vous écoute, Chibango.
Oui, ma préoccupation était en rapport avec le sujet à l'ordre du jour. Je voudrais un peu demander, est-ce qu'au niveau de notre ministère de l'économie, n'y a-t-il pas un petit problème là ou une réglementation qu'il faut? Puisque quand nous prenons du thé, par exemple, le matin, et le lait que nous utilisons est contenu dans les petits sachets de Cobel, voire même le Nescafé dans les petits sachets. Donc, tous les matins, nous sommes en train de contribuer à la spoliation de l'atmosphère. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'inviter pour ceci? Nous dire par quel moyen on peut arrêter ce mécanisme, puisqu'il y a plusieurs foyers, il y a plusieurs ménages qui consomment et qui prennent, par exemple, du thé le matin. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réglementer ça au niveau du ministère de l'économie? Merci.
Merci Chibango, Jean de Dieu.
Oui, merci Marcel. Je crois qu'il y avait, je crois, un décret ou un arrêté ministériel où on interdisait l'importation des sachets en République démocratique du Congo. Je dois dire, mon ami Chibango, qu'aujourd'hui, le monde actuel, ce n'est plus un monde où quelqu'un se retrouve chez lui et commence à prendre des décisions. Aujourd'hui, les décisions doivent être motivées, les décisions doivent être le fruit d'une concertation. C'est bien, vous avez la responsabilité en tant que ministre de pouvoir prendre des décisions, mais je ne crois pas que ça peut apporter des solutions au problème. Mais la question fondamentale, c'est de discuter avec ces gens qui produisent les sachets. Les gens qui emballent les biscuits, par exemple, avec des sachets au lieu de les emballer avec du papier. C'est beaucoup plus responsable. Mais il ne faut pas entrer dans les prises de décisions comme ça et sans toute. Donc, moi, je pense que la sensibilisation de tous les acteurs impliqués par rapport à cette question, comme vous l'avez dit, parce que nous avions dit, les déchets contribuent au changement climatique, renvoie dans l'atmosphère les gaz à effet de serre, le fait de fabriquer les sachets, ça demande de l'énergie, c'est souvent l'énergie fossile qui est utilisée, et ça renvoie des gaz à effet de serre. Donc il faut une concertation, il faut une sensibilisation, comme nous avions dit également dans la question du changement climatique. Se retrouver seul dans un bureau pour prendre des décisions, je crois qu'à mon avis, ça n'apportera aucune solution par rapport à tout ce que nous avons compris. Seule la concertation pourra nous aider à nous en sortir de ces grands bourbiers.
Merci Jean de Dieu Minengou d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce sujet, comment prévenir les effets du changement climatique sur les cultures. Nous retenons que c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail, c'est maintenant qu'il faut chercher déjà à repérer les variétés résilientes plutôt que d'attendre quand le problème va plus s'aggraver. Merci beaucoup, nous rappelons que vous êtes expert en environnement et nous espérons vous retrouver une prochaine fois.
Merci Marcel, on sera disponible.